Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en cette fin d'après-midi pour évoquer le football. Olivier Giroud chez les Blues, un maillot bleu de Chelsea pour le désormais ex-gunner qui espère gagner du temps de jeu pour être parmi les Bleus à la prochaine Coupe du Monde. Un transfert aussi pour aider des Blues qui ont cette année bien du mal à défendre leur titre de champion d'Angleterre. Ils ont d'ailleurs perdu hier à domicile pendant que Manchester United perdait aussi sur la pelouse voisine de Tottenham. Voilà les hommes de José Mourinho à 15 points des Citizens. Lyon de l'Atlas contre Super Eagles. La finale entre deux équipes aura lieu dimanche soir à Casablanca et ce sera la clôture du CHAN 2018 avec donc les deux meilleures équipes qui réussissent à se hisser en finale. Et puis nous avons deux invités aujourd'hui autour d'un livre, les auteurs de Magic System, ouvrage publié aux éditions Marabout, Barthélémy Gaillard et Christophe Glaise. Bonjour Christophe Glaise.
Bonjour.
Vous avez sillonné l'Afrique pendant un an et ce livre n'a rien à voir avec le groupe de musique ivoirien, hein, c'est pas Magic System. C'est donc un livre qui relate, pour ne pas dire dénonce, ce qui est le sous-titre de l'ouvrage, l'esclave moderne des footballeurs africains. Et on discutera de cette notion d'ailleurs d'esclavage. Et vous avez beaucoup d'exemples, de témoignages et d'anecdotes, j'imagine, à nous raconter ici. Pour en parler, eh bien, il y a aussi Patrick Juillard de Foot Africa 365. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bruno Constant, notre spécialiste du foot anglais. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et puis Chérif Guémour de SoFoot. Bonjour Chérif. D'ailleurs, avec Christophe, vous êtes dans le même camp, on va dire. Hein,
bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes de SoFoot aussi. Thomas Saint-Léger, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
À Radio Foot, c'est parti. Ils chantèrent ces louanges durant 5 saisons et demie, les supporters d'Arsenal. Mais le bon soldat Giroud était arrivé au bout de la route dans l'effectif d'Arsène Wenger. Il n'avait plus sa place parmi les canonniers et il va donc tenter sa chance chez les Blues, dans un autre quartier de Londres. Un transfert qui est intervenu dans les dernières heures du Mercato, au terme donc de 180 matchs et 73 buts pour les Gunners. Une dernière apparition face à Swansea, c'était donc les dernières minutes d'Olivier Giroud sous le maillot des Gunners. Une apparition en forme d'adieu, d'hommage aussi à confier Arsène Wenger, qui aimait beaucoup son joueur.
C'est un garçon qui a rendu de grands services au club et il ne nous a jamais déçus dans son engagement et nous a sauvés à plusieurs reprises par le passé. Alors je l'ai fait entrer aujourd'hui parce que c'était nécessaire pour nous. Son comportement a toujours été très classe. C'est un homme d'Arsenal, mais il doit aussi jouer car c'est un titulaire régulier en équipe de France. Et les places vont coûter cher pour la Coupe du Monde. La situation est difficile pour lui, car il a toujours été impliqué à 100% pour ce club.
Impliqué à 100%, mais il est donc parti. Une première question, Bruno Constant. Est-ce que c'est bien vu de passer de chez les Gunners à chez les Blues ?
Pas forcément. Les derniers, en tout cas les plus célèbres, je pense à Ashley Cole qui était parti d'Arsenal à Chelsea. Oui, il a grâce à ça gagné beaucoup de titres, mais il avait été sifflé à chaque fois et c'était très compliqué. Dur. William Gallas qui avait fait le chemin en sens inverse avait des accueils à Stamford Bridge assez terribles. Mais je pense que pour Olivier Giroud, non seulement il va être épargné, mais il est très regretté déjà à Arsenal. C'est une figure sympathique qui a toujours donné ce qu'il pouvait. Les supporters avaient compris que c'était pas l'attaquant, le meilleur attaquant du monde, mais que le prix qu'il avait coûté, 12 millions d'euros à Montpellier, et ce qu'il a apporté à Arsenal, c'est-à-dire 105 buts en 253 matchs, ça reste énorme. Et voilà, et je pense qu'il sera applaudi, respecté, et que les supporters ont compris qu'il ait envie de jouer davantage. Est-ce qu'il jouera davantage à Chelsea qu'à Arsenal? Il y a une petite chance, parce que Morata est souvent blessé, qui convainc pas toujours. Et voilà, et puis parce que Giroud a la Coupe du Monde en vue à la fin de la saison, donc c'était important pour lui.
Voilà Patrick Juillard, c'est ça, à 31 ans, Olivier Giroud, il avait besoin de temps de jeu. Je pense que le collaborateur de Didier Deschamps avait clairement dit que c'était pas assez en ce moment, Guy Stéphane. Et donc il part aussi à la recherche de temps de jeu. Alors peut-être que ça va être une bonne manière d'en gagner.
Alors effectivement, il était un petit peu sous pression du staff de l'équipe de France, non pas pour sa place, puisque je pense que même s'il était à rester à Arsenal en gardant un temps de jeu limité, il aurait de toute façon été, sauf blessure, dans les 23. Mais
grâce à son profil, ouais.
Voilà, parce qu'il a un profil et que Didier Deschamps aime bien ce profil-là. Comme Conte d'ailleurs, on voit la patte Juventina là-dedans. Mais maintenant, c'est vrai qu'il était bon pour lui de se relancer. Il aurait pu aller ailleurs, mais je pense que pour des raisons familiales et personnelles, il voulait rester à Londres.
Oui, c'était même carrément ça, il l'a dit.
Oui, voilà. parce qu'on parlait de Dortmund. Tout le monde
je crois que sa femme vient d'accoucher.
Il aurait joué davantage à Dortmund, mais déjà, on n'en est pas sûr. Il aurait changé de pays, de championnat, de ville avec ses enfants et tout. Là, il est à Londres, c'est mieux, forcément.
Et voilà, donc je pense qu'en plus, c'est un club avec... beaucoup de jeux sur les côtés avec des latéraux, des joueurs de couloir rapides, Alonso, Moses qui peuvent envoyer pas mal de centres. Et pour un joueur assez grand et habile sur les balles aériennes comme Giroud, c'est pas négligeable et c'est peut-être mieux qu'Arsenal pour ça.
Un de ses amis était à Arsenal avec lui, un autre Français international, Mathieu Debuchy, et il s'exprime justement sur ce choix qu'il approuve.
Il a choisi la bonne option, c'est lui qui le sent, c'est lui qui décide. Il voulait rester dans le championnat anglais, donc le voilà à Chelsea. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, je me fais pas trop de soucis pour lui. Je sais que c'est quelqu'un qui arrive toujours à se débrouiller pour être performant et marquer des buts, donc ce qu'on lui demande, et il le fait très bien.
Chéri, vous aussi, vous pensez qu'il va se débrouiller ?
Ça va être dur déjà de trouver une place de titulaire à part entière, donc faut pas trop y compter de ce côté-là, mais on parlait de la complémentarité qu'il peut avoir avec les joueurs de couloir pour les centres, pour le profil de buteur, le jeu aérien, tout ça et tout. Faut pas oublier non plus que c'est un très très bon, il combine très bien en attaquant de soutien. Ouais. Il s'entend bien avec Griezmann, il risque de s'entendre bien avec Hazard s'ils ont suffisamment de temps de jeu. Donc c'est un joueur un peu plus fin.
C'est un pivot qui est capable de jouer en déviation et en touche.
C'est un joueur qui est un peu plus fin qu'on ne le dit. L'image qu'on gardera de Giroud, bah c'est un peu ce qu'a dit Bruno à Arsenal, c'est il pouvait surtout en Ligue des Champions, parce que c'est toujours là qu'on se révèle.
C'est les il a joué d'ailleurs avec Chelsea là.
Oui, mais il y a eu le très bon Giroud, c'est celui qu'on a vu contre le Bayern, qui a toujours répondu présent, et malheureusement les limites on les a vues contre Monaco il y a 2 ans, où il avait eu plusieurs fois la qualification au bout du pied. À l'arrivée, donc voilà, on l'a apprécié à Arsenal, tout en sachant que c'était pas non plus Thierry Henry, tout simplement.
Thomas.
Oui, pour son adaptation, comme ce qui a été dit, c'est vrai que par rapport au système de jeu de Chelsea, ça peut convenir. Morata sera pas là à tous les matchs. C'est vrai que Giroud peut faire un bon remplaçant, mais je me dis quand même qu'il est pas forcément en terrain connu. Giroud, il connaît cette équipe pour l'avoir affronté, mais il va devoir s'adapter. Là, le laps de temps est assez court, donc moi, je parlerai pas forcément d'une fausse bonne idée, mais d'un pari risqué. Je dirais même aussi
Pas le choix. Il avait pas le choix de toute façon. Il fallait qu'il parte, parce qu'Arsenal voulait Aubameyang, et déjà le dernier avait poussé Giroud vers la sortie. Il aurait pu signer Everton, il n'avait pas voulu. Et il avait senti déjà depuis un moment qu'il n'avait plus sa place. Donc il était quasiment numéro 3 à Arsenal. Maintenant, il est numéro 2 à Chelsea. Et pour entendre ce qui se dit à Chelsea, où Conte n'est pas totalement heureux avec Morata, ce qu'apporte Morata, qui est souvent blessé aussi depuis le début de la saison, je pense qu'il va jouer plus qu'on ne le pense, Giroud.
Mais ça reste quand même aussi pour moi un pari risqué pour les deux et pour Chelsea aussi, parce que la somme déjà misée est importante. Je crois que c'est 20 millions d'euros, un joueur de 31 ans qui joue peu.
Elle
qui
est
se
importante
blesse
pour un joueur de cet âge-là, mais elle n'est pas importante par rapport au marché et au prix qu'on voit aujourd'hui. Un attaquant aujourd'hui, il n'y a rien à moins de 50 millions d'euros, et Giroud, même s'il a 31 ans, c'est un joueur qui marque des buts. Donc,
Surtout revendiqué à Chelsea, parce qu'on pouvait faire une culbute plus importante. Hein. Quand c'est Chelsea qui demande, surtout à Arsenal, on aurait pu monter encore plus haut. Enfin, encore plus haut.
Ouais.
Enfin, c'est correct.
Oui, c'est correct, je pense. Ouais.
Et par rapport à Batshuayi, en dehors du profil différent, je ne vois pas vraiment ce qu'il apporte de plus, peut-être de l'expérience.
Déjà parce que Conte n'aimait pas Batshuayi, c'était un profil qu'il ne voulait pas. C'est pour ça qu'il a contacté jusqu'à Peter Crouch, Andy Carroll de West Ham, Dzeko à la Roma. Il voulait
comme
un pivot,
hasard,
un joueur de tête.
Qui joue aussi en remise. Ouais. Aussi, ouais.
Mais il voulait un grand gabarit.
Je pense que Giroud, par rapport à Batshuayi, est plus expérimenté et sans doute qu'un meilleur dans les placements. Batshuayi, c'est un joueur qui a des grosses qualités athlétique, qui est un bon finisseur, mais qui est quand même souvent pris au hors-jeu et tout ça. Giroud, je pense qu'il est un peu plus habile, un peu plus fin à ce niveau-là. Mmh. Voilà.
Ouais. À Wembley, dans un stade archi-plein, hein, hier, c'était record
pour un match de Première Ligue, ouais.
Exactement, c'était
87 000 quelque chose.
Oui, ouais. Près de 88 000, on va dire. Tottenham, comparé aux 4 000 de Monaco, c'est quand même assez intéressant.
En même temps, si vous comparez à Monaco, tout paraît plus grand.
Oui, surtout quand on nous dit 4 000 dans Monaco et qu'on regarde le match, on se dit qu'on les cherche, hein, les 4 000. En tout cas, dans ce stade plein, donc, qui est Wembley, parce que c'est pas simple non plus, c'est pas Stamford,
Hart Lane
qui est en construction, on le sait. Donc à Wembley, Tottenham eh bien, a imposé son rythme à Manchester United, battant donc les hommes de José Mourinho par 2-0. Plus qu'un mauvais pas pour les Mancuniens qui se retrouvent relégués à 15 points des autres Mancuniens, les intouchables Citizens. C'est aussi un beau coup pour Tottenham, une victoire essentielle, nous dit Hugo Lloris, le gardien des Spurs.
Une grande équipe en face et un moment important de la saison. On entame une série de matchs très importants pour notre avenir et c'est important de bien démarrer. On a fait un super match. Et il faut qu'on règle encore quelques petits trucs pour gagner en constance dans les résultats. Mais voilà, sur les gros matchs, on est capable de répondre présent. Et c'est bien parce que on se rapproche, on est là et on est toujours en vie. Donc c'est bien.
Alors encore en vie, mais ils sont à 20 points de Manchester City, ça veut dire qu'on se rapproche peut-être de United, c'est ça, c'est on vise les trois places qualificatives.
Oui, parce qu'on sait que City de toute façon sera dans les quatre, il reste plus trois places et là il y a une grosse bataille. Et
un peu comme en France hein, sur cette bataille de la deuxième place.
Et il y a un enjeu énorme en Angleterre avec les droits de TV, mais aussi le fait d'être dans cette qualification Ligue des Champions. Et on voit que chaque club a vraiment des trous. Chelsea en a un en ce moment, Liverpool en a eu un, United en a un aujourd'hui, et Tottenham ils ont retrouvé le football. Comment ?
Ils viennent de loin pour la course à l'Europe. Hein.
Mais après ils ont moins de moyens Tottenham que les autres et ce qu'a fait Tottenham hier, c'était un match magnifique. Ils ont failli faire le record du but le plus rapide.
Ah oui, et puis quel but ! Une action collective exceptionnelle. Ouais. Eriksen, une conclusion parfaite.
Ouais. Ils aiment Tottenham comme moi, c'est bien.
Non, mais si, c'est vrai, Tottenham, mais c'est un jeu qui est pas, qui a rien de britannique finalement.
C'est peut-être
paradoxalement le club le plus purement anglais de ce top 5, quoi. C'est ça qui est
dans
assez
son effectif, c'est ça?
Dans l'effectif et dans l'identité, du club.
Y compris Harry Kane qui a une finesse très latine, en fait.
Oui.
À la fois british.
Qui saute pas aux yeux, mais effectivement.
À la fois british et latine. C'est pas faux. C'est un beau joueur.
En tout cas, ils se sont relancés, l'espoir. Vous avez le classement. Thomas, c'est ils sont à
5 points de Manchester United.
Exactement.
Donc entre la 2e et la 5e place, 5 points, moi j'ai plutôt envie de dire à Manchester United, attention, il y a plutôt le rétroviseur que devant maintenant.
Et justement d'ailleurs Manchester United, on parle d'équipe offensive, bizarrement hier il n'avait pas sorti son bus devant les buts Mourinho.
Non mais il aurait peut-être dû parce que quand on voit le résultat, il a aligné 4 joueurs offensifs parce qu'il n'a pas su comment gérer l'intégration d'Alexis, donc il a mis Alexis
à
gauche.
Il l'a carrément mis dans le bain tout de suite.
Il l'a mis à gauche alors que Martial était à l'aise à gauche. Martial s'est retrouvé à droite, du coup, il n'avait plus beaucoup d'intérêt. Et puis Pogba, on a beaucoup parlé de Pogba parce que dans une équipe où il y a autant de joueurs offensifs, Pogba dans un milieu à deux, c'est catastrophique défensivement. D'ailleurs, Mourinho l'a appelé sur le bord de la touche pour l'expliquer.
On les a vus, effectivement.
Et il l'a sorti juste après l'heure de jeu, c'est la première fois qu'il fait ça de cette saison. Donc il y a un vrai souci Pogba et United.
Il y a un souci Pogba ou c'est un choix de Mourinho d'empiler les attaquants.
C'est le même. Du coup c'est le même problème.
Ah oui.
Parce que
si c'est pas que de la faute de Pogba, ça peut être de Mourinho.
Pogba à un moment donné, s'il joue mieux de terrain, il faut aussi qu'il défende. Et c'est le seul milieu de terrain qui défend pas. Donc et là le problème c'est à Mourinho de trancher, de faire jouer un milieu à 3 avec Pogba un peu plus haut et sacrifier
surtout
un joueur
offensif. Surtout qu'il a les qualités pour en plus Pogba. Donc,
bien sûr.
Là c'est un problème d'adaptation et de polyvalence et
d'attitude aussi.
Il a pas le niveau pour pouvoir imposer à un coach, à fortiori comme José Mourinho. Moi je veux jouer à ce poste-là et pas ailleurs. Non, il doit jouer là où on lui dit de jouer.
Mais depuis le début de saison, il donnait plutôt satisfaction.
Ah oui, mais il donne satisfaction, mais c'est pas parce qu'on le déplace de temps en temps, puisque Alexis Sanchez est arrivé, ça va entraîner une redistribution des cartes. Il va peut-être devoir travailler sur d'autres aspects qui n'avaient pas beaucoup travaillé, d'autres registres qui n'avaient pas beaucoup travaillé dans l'organisation précédente.
Puis on a vu ce qui agaçait les supporters d'Arsenal avec Alexis. C'est un joueur qui est très individualiste, qui défend pas beaucoup. Et on l'a vu hier à Wembley, c'était flagrant et parfois il défendait avec un de moins, donc
c'était
cher.
Peut-être aussi une mise en route. On l'a mis dans le bain très rapidement.
Non, parce qu'il faisait exactement la même chose à Arsenal. Donc c'était vraiment l'Alexis qu'on connaît. Sauf qu'il marquait des buts.
En tout cas, il s'est beaucoup fait siffler hier, parce que le public, là, par contre...
De toute façon, en tant qu'ancien d'Arsenal contre Tottenham, là,
c'était plutôt en tant qu'ancien d'Arsenal, j'imagine. Comment vous les voyez, ces joueurs de José Mourinho? Parce que pendant longtemps, on les a vus essayer de suivre le train de Manchester City, Sheriff. Et puis là, peut-être qu'ils ont un coup de mou.
Moi qui ai été très critique avec Manchester United, je trouve que ça devient de plus en plus cohérent. Je pense qu'il commençait à trouver un peu son équipe de base. Par rapport aux objectifs qu'on fixait toujours à Mourinho, enfin ce qu'on lui prédisait, c'est-à-dire la deuxième saison, être champion dans le pays lequel il arrivait, ben ce sera pas pour cette saison. Mine de rien, moi je pense que c'est un championnat qui est plutôt pas mal. Ils sont encore en Ligue des Champions. Une fois de plus, on va se retrouver peut-être à la fin de la saison avec un bilan plus que satisfaisant de Mourinho. Ils sont encore en Ligue des Champions. Ils ont.
Mais l'intégration d'Alexis Sanchez, pour vous, ça peut changer la donne?
Cours de saison.
C'est un drôle de choix.
Ouais, je sais pas, parce que ça redistribue les cartes devant entre tous les attaquants qu'il avait déjà.
Alors qu'il avait trouvé un équilibre.
C'est un peu dérangeant, parce que d'ici la fin de la saison, trouver la bonne ligne d'attaque, on pensait que la formule était trouvée, finalement, bah, peut-être qu'il est en train de la déranger. On va voir sur la fin de la saison.
Thomas?
Non, mais c'est pas qu'à Manchester United, ce choix d'intégrer sur ce mercato d'hiver 2018, des joueurs importants payés très cher. Ce n'est plus seulement un mercato d'ajustement. On l'a vu avec Laporte, avec Coutinho. Ça, c'est, j'ai l'impression, la tendance de ce mercato 2018, c'est on va apporter une vraie plus-value à l'équipe pour la fin de saison.
Arsenal, quand même, Mkhitaryan, Aubameyang, c'est quand même...
Plus la prolongation d'Ozil, ce qui n'était pas...
On a changé totalement la ligne offensive.
Mais on est dans une année de Coupe du Monde, et je pense que ça a joué aussi beaucoup, où on sait qu'avec une Coupe du Monde, les prix peuvent s'envoler. Et il y a aussi la pression de se qualifier pour cette Ligue des Champions d'Angleterre. Tous les entraîneurs, à part Guardiola, ils sont tous sous pression par rapport à leurs dirigeants. Ça devient une énorme guerre, ce qui se passe en Angleterre,
plus
la Ligue des Champions. Ouais.
Les clubs anglais reviennent à la Ligue des Champions, on l'avait annoncé, oui. Autant on les a pas vus ces dernières saisons, là ils reviennent, puis en plus à la grâce des quatre qualifiés, maintenant on l'a vu, ils ont pratiquement fait un sans faute au premier tour.
Les cinq en route sont qualifiés.
Clubs anglais sont de retour en Ligue des Champions.
Mmh. Justement sur ces clubs anglais, Liverpool a gagné avant-hier, et c'est vrai qu'on a une terrible bataille donc entre Manchester United, Chelsea, Liverpool, voir Arsenal
et Tottenham aussi.
Et Tottenham.
Bah, bien malin celui qui pourra dire qui sera le challenger de City, puisque bon, City, ça me paraît, sauf effondrement brutal, je pense que le titre leur tend les bras. Ouais. Je les vois pas s'effondrer.
Pas écroulés au Boxing Day. Donc
et puis même quand ils jouent mal, ils arrivent à gagner. Donc bon, c'est quand même plutôt bien emmanché. Après, pour le reste.
La vraie question, c'est qui seront les deux déçus, 5e, 6e.
Il y en a un, on sait à peu près qui ça va être.
Arsenal, une tête de déçu hein, pour l'instant. Et
mal barré quand même, ouais.
La défense de Liverpool pourrait jouer des mauvais tours à l'équipe. Mais
ouais.
Bon,
Bruno,
non, ça n'est que mon pronostic.
Bruno, vous qui parfois nous avez prédit des choses qui ne se réalisaient pas, oui.
Non, je pense aussi que Liverpool est peut-être un cran. Bah, Arsenal, c'est sûr. Et je pense qu'Arsenal, peut-être, qui n'a pas réglé ses problèmes défensifs.
Ils sont trop irréguliers par rapport à cette bataille?
Moi, je trouve qu'ils sont juste trop limités défensivement.
Chose, c'est les mêmes problèmes qu'Arsenal.
Il y a des
finalement.
Sautes de concentration, il y a des erreurs grossières.
Mais Chelsea
qui perd
à domicile 3-0 face à Bournemouth qui est 10e.
Ça, pour moi, c'est plus un match sans, comme ça arrive parfois dans la saison. Je pense pas qu'ils vont. C'est symptomatique d'un énorme malaise dans l'équipe.
On va voir aussi l'équipe qui va en Ligue des Champions, va aller le plus loin pour être aussi se laisser aspirer par cette compétition et puis perdre un peu d'énergie ou de concentration en championnat. Ça peut jouer aussi. Donc,
Sheriff.
Non, je pense la même chose.
Ouais.
Par rapport à la Ligue des Champions. Donc
peut-être que ça peut être un avantage aussi pour Arsenal qui n'en dispute pas finalement de Ligue des Champions.
C'est surtout que c'est devenu leur objectif prioritaire. Maintenant, c'est l'Europa League. Mm-hmm, il faut la gagner pour se qualifier en Ligue des Champions. Là, ils reviendront pas.
Ils font comme Manchester United l'année dernière qui avait choisi cette option. Clairement,
c'est la bonne méthode.
Sauf qu'il n'y a pas les mêmes adversaires que la saison passée. Parce que là,
c'est
il y a l'Atlético, il y a Dortmund, il y a Naples.
Plus relevé.
Les clubs reversés de Ligue des Champions sont plus forts cette année.
Oui, ils essayent de trouver une manière de se glisser en Ligue des Champions par ce biais de la Ligue Europa. C'est la fin de la première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause et nous évoquerons la finale du Chan et puis nous évoquerons aussi ce livre Magic System sur les footballeurs africains qui rêvent de venir jouer notamment en Europe. A tout de suite.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
La suite de Radio Foot International, toujours sur RFI, toujours avec Patrick Juillard, avec Bruno Constant, Chérif Guémour et Thomas de Saint-Léger. Nous allons évoquer l'Afrique avec ce CHAN. Les Lions de l'Atlas sont donc en finale de leur CHAN. L'équipe du Maroc a été hier la première à décrocher sa place en finale après sa victoire sur la Libye par 3-1 et rejointe peu après par le Nigeria qui s'est défait du Soudan sur le score de 1-0. La demi-finale ne fut pas si simple pour les Marocains, c'est ce que reconnaît leur entraîneur Jamal Selami.
Parfois l'enjeu prend le dessus sur le jeu, c'est normal parce que on est en demi-finale, on veut gagner, on maîtrise le jeu, mais parfois il y a des moments où l'adversaire il s'impose parce que c'est un équilibre que tu dois maintenir pendant tout le match. Tu peux pas dominer tout le match, c'est impossible, mais on a pu marquer des buts dans des moments très importants et vers la fin le penalty nous a soulagé encore plus.
Jamal Selami au micro de Anas Yassine. Un match très intense entre finalement deux équipes qui peut-être ont des oppositions de style, on va dire, pour ce qui sera de la finale, évidemment.
Oui, alors que paradoxalement, jusque-là, elles ont le même parcours dans ce CHAN. C'est 4 victoires, un match nul et puis une qualification. Ça aussi, c'est le point commun assez difficile en demi-finale. Mais opposition de style, oui, parce que d'un côté, on a l'efficacité du Nigeria. C'est pas très spectaculaire, mais c'est seulement 2 buts encaissés, je crois, depuis le début du tournoi. C'est des victoires étriquées, mais finalement, ça passe. Et puis, de l'autre, le Maroc. Alors, c'est plus flamboyant, c'est plus spectaculaire. C'est 12 buts marqués depuis le début de ce CHAN, mais un peu trop joueuse parfois. On l'a vu hier avec le gardien de but qui s'est pris pour un joueur de champ. Et
bah parce qu'il reculait, ils étaient devenus fébriles en fin de match. Ils avaient,
voilà, et un peu plus fébriles. Donc c'est une opposition style avec pour moi quand même un avantage pour le Maroc, déjà parce que c'est l'équipe la plus complète et parce qu'ensuite ils seront soutenus par tout un stade, le public de Casablanca. Je crois que c'est 70 000 personnes, c'est ça, Patrick?
Ouais, un petit peu moins, mais en tout cas, c'est un gros contingent de public qui va les soutenir et tout le pays sera derrière eux. C'est un dimanche. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit un vrai événement. À ce niveau-là, c'est réussi, en tout cas pour les
matchs du Maroc. Mais on a l'impression que c'est parce que depuis qu'ils ont réussi à organiser cette compétition, il y a ce poids sur l'équipe et peut-être qu'hier, ils ont commencé à la montrer, cette pression
sur eux.
Déjà
au premier tour, même par exemple le premier match contre la Mauritanie, bon, si on s'en tient au résultat, bon, 4-1, très bien, mais c'était pas brillant tout le match. Ils ont plutôt accéléré en fin de partie, mais si on prend la globalité, c'était, bref, le Maroc a un peu des sautes de concentration. C'est un petit peu en sinusoïdal ce que déploie l'équipe. Et il va falloir, je pense, être quand même un peu plus carré, si on peut dire, en finale, parce que le Nigeria, c'est solide derrière, efficace devant, avec le Gabriel Okechukwu qui a marqué donc le but hier. C'est un joueur d'ailleurs qui est assez un peu original pour un des joueurs du CHAN, puisque lui a déjà joué en Europe. Il avait eu une expérience en Ukraine qui avait pas marché du tout, il s'était pas adapté, et il est revenu au Nigeria, et là sa carrière a pris un peu un second souffle, alors qu'il avait déjà fait des sélections des moins de 20 ans notamment. Le Maroc, c'est pas mal. Ben Sharki est un bon régulateur, mais là aussi, il a un peu trop le souci du beau geste et au lieu de l'efficacité. Bon, on peut pas lui en vouloir, hein, mais je pense qu'ils devront être un peu plus tueurs en finale, et ils ont pour ça El Kabi qui est avec 8 buts déjà, le joueur de la Renaissance, oui, de Berkane. Lui, c'est vraiment la révélation du CHAN. Peut-être le joueur qui va...
qui rêve de Coupe du Monde.
Lui, voilà, c'est peut-être, si on doit prendre un joueur local qui n'est pas encore dans l'équipa, puisque Ben Sharki a déjà été sélectionné par Hervé Renard, lui, je pense qu'il a dû taper dans l'œil de son coach, puisque l'un des gros problèmes du Maroc, qui est une équipe cohérente, sans grande faille, c'est de pas avoir de buteur vraiment infaillible. El Arabi ne joue plus beaucoup et Boutaïb, c'est un joueur bon qui est un peu un joueur de série B sans être désobligeant, qui est pas un grand attaquant.
Patrick et Thomas, il y a une chose aussi qu'on peut noter dans ce championnat. On se souvient que sur le premier tour, il y avait eu une histoire un peu mal racontée d'un joueur soudanais qui avait fait un match. Ensuite, il y a eu la plainte de la Guinée contre ce joueur qui n'était plus local à ce moment-là, mais qui était déjà en partance pour un club en Europe, hein, si je me trompe pas. Ou en Afrique, ailleurs. Et là, on a deux autres cas, Thomas, en fait, deux Marocains d'ailleurs.
Oui, Achraf Ben-Sharki, dont parlait Patrick, il a signé pour Al Ahly du Caire, et puis Jawad El Yami.
Al Ahly d'Arabie Saoudite.
Al Ahly d'Arabie Saoudite, pardon, exactement. Et puis Jawad El Yami, qui lui a rejoint, enfin en tout cas, signé pour le Genoa en Italie. Alors, ça pose quand même une question, parce que cette compétition, elle est réservée normalement aux joueurs locaux. Alors, effectivement, au début de la compétition, il faisait encore partie d'un club du championnat marocain. Et puis ça s'est joué dans les dernières minutes à la fin de la compétition. Il y a une histoire de certificat de transfert, je crois, c'est ça, Patrick?
Oui, parce qu'il y a la signature d'abord du joueur dans son nouveau club. Mais ensuite, la fédération dont dépend le joueur doit délivrer un certificat international de transfert. Donc selon la date de délivrance, on peut considérer qu'il est encore un joueur... local. Ensuite, les clubs ont donné leur accord, en tout cas le club où a signé Ben Sharki a donné son accord pour que le joueur finisse le Shan avec son équipe. Et il faut ajouter quand même que ce ne sont pas les seuls joueurs qui ont signé dans un club hors Afrique avant même le Shan, puisque Franz Pangop, l'attaquant du Cameroun, a quitté l'Union Douala pour Minnesota United en MLS le 10 janvier, donc avant le Shan. Mais là aussi, on a considéré que les listes ayant été établies, les clubs acheteurs des joueurs étant d'accord pour les laisser à disposition de leur sélection, bon, on a considéré qu'ils étaient encore locaux, quoi. Bon, c'est une jurisprudence assez souple.
Ouais, imaginez que dimanche, à la 92e minute, Ben Sharki donne la victoire au Maroc contre le Nigeria. Je pense que ça ferait jaser.
Ça ferait jaser peut-être.
Peut-être pas au Maroc.
Bon, les listes, moi je considère que les listes ont été établies avant. C'est en même temps compliqué de faire venir un autre joueur ou de. Et puis, il faut pas non plus empêcher le Shan de jeter un coup de projecteur sur des joueurs. Si ça peut permettre à des joueurs d'être recrutés à l'étranger, je pense qu'il faut pas non plus trop freiner cela. Donc c'est.
Moi, je suis. C'est pas comme s'ils avaient fait déjà un mois dans leur club européen ou américain.
C'est ça. Ils n'ont pas encore porté le maillot de ces clubs dans lesquels ils viennent de signer. Donc, on peut quand même être un peu souple, je pense.
Bon, Patrick, vous me faites tout de suite la transition pour le sujet suivant. On va retrouver les auteurs de l'ouvrage Magic System.
Le trafic, non, on peut pas dire que c'est justifié ni toléré. De toute façon, à partir du moment où une personne vient en France, pas par le biais de l'avion, c'est-à-dire avec dans des conditions régulières, avec les papiers, un passeport, un visa, c'est pas juste parce que la personne, quoi qu'il arrive, quand elle arrive en France, elle n'aura aucun droit.
De ne pas se faire avoir, d'essayer de regarder un peu sur Internet, etc., les clubs qu'on leur propose, et surtout d'essayer de s'informer. Après, sur le sujet, je ne connais pas trop. Je ne savais même pas qu'il y avait un énorme trafic comme ça de footballeurs ou footballeuses africaines.
Voilà un extrait d'un reportage de nos confrères d'Antenne 2 pour introduire ce sujet sur les joueurs africains et les rêves d'ailleurs, d'Europe notamment. Un ouvrage est donc sorti hier en France, ça s'appelle Magic System aux éditions Marabout. Le sous-titre de cet ouvrage, c'est L'esclavage moderne des footballeurs africains. Alors, les deux auteurs de ce livre, Barthélémy Gaillard et Christophe Glaise, sont là. Messieurs, d'abord une question, pourquoi avez-vous eu envie, je crois que ça vous a pris pratiquement un an d'enquête et de voyage aussi, hein, oui, parce que vous avez beaucoup parcouru l'Afrique. Pourquoi avez-vous eu envie ou intérêt d'écrire ce livre ?
Alors, à la genèse, c'est le président de l'association Foot Solidaire qui s'appelle Jean-Claude Mbouin, qui est Mbouin, pardon. Moi, je l'appelle JC.
Le Camerounais, oui, c'est plus simple. On a eu beaucoup de mal à prononcer son nom.
Et donc, il est venu me parler de ce sujet parce que bon, il avait remarqué quelques-uns de mes articles dans SoFoot. Parce que je m'intéresse pas mal à l'Afrique. Et bref, je lui ai dit que ça tombait bien, que je partais pendant 9 mois en Afrique. Et à partir de là, on a commencé une sorte de petit partenariat où il m'a ouvert des portes, expliqué bien le sujet. Et après, moi, bien sûr, je me suis progressivement détaché avec Barthélémy. On s'est détachés tous les deux pour vraiment mener une enquête indépendante pour vérifier si c'était aussi grave qu'il le disait, et oui.
Barthélémy, vous étiez sur le terrain. Dans quel pays êtes-vous allé pour voir comment ça se passe ?
On est passé par 6 pays d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est évidemment l'un des plus gros viviers de jeunes joueurs africains. Donc pour vous les citer, on a fait le Sénégal, Gambie, Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo. Et effectivement, comme disait Christophe, en fait, ce qu'on a pu faire lors de cette enquête de terrain en Afrique de l'Ouest, c'était vraiment voir un peu par quel biais, quel mécanisme les jeunes joueurs africains, donc qui sont gavés d'images de grands joueurs africains qui eux jouent en Europe et donc rêvent que d'une chose, à savoir embrasser la même carrière, par quelle filière ils passaient, quel mécanisme leur permettait d'accéder aux clubs européens, parfois en changeant leur âge, ou enfin voilà, il y a plein de mécanismes comme ça qui...
Oui. Vous parlez d'esclavage moderne des footballeurs africains. Récemment, il y a eu cette histoire d'esclaves en Libye, où des gens étaient parqués, où on payait pour les acheter d'une certaine façon. Est-ce que le mot esclavage moderne, pour vous, s'applique envers le cas de ces footballeurs?
Oui, en partie,
Christophe.
Parce que bon, nous on parle d'esclavage moderne, hein, donc mais disons que ces joueurs sont souvent, bon, quand ils sont en situation de détresse, sont souvent récupérés par des réseaux criminels, ou après aussi ils essaient de passer par des réseaux clandestins d'immigration. Donc là, on a les mêmes problématiques. Faut pas séparer foot et société. Si vous voulez, ils sont en train de passer. Mais plus spécifiquement dans le monde du foot, il y a une forme, voilà, d'esclavagisation, parce que on se retrouve face à des milliers de gamins, voilà, qui sont dépendants d'agents véreux. Pardon, je t'en prie.
C'est en ce sens que c'est de l'esclavage moderne. Il y a plein de cas comme ça qui se déroulent en France en ce moment même, d'esclavage domestique, si vous voulez. C'est-à-dire que l'agent qui va recueillir le joueur, lui promettre monts et merveilles, et puis l'accueillir, par exemple, en Espagne, au Portugal, ou que sais-je encore. Une fois qu'il accueille le gamin, il lui prend ses papiers, et le gamin, si vous voulez, il se retrouve en totale dépendance administrative. Et donc derrière, bah, le chantage faisant, il peut prélever l'argent, et c'est exactement le genre de cas qu'on a pu constater, notamment avec un agent espagnol, oui, dans une filière qui allait jusqu'au Mali.
Et en plus, c'est difficile pour eux de porter plainte, puisqu'ils sont dans l'illégalité, puisqu'ils sont sans papiers, entrés clandestinement sur les territoires, donc c'est d'autant plus dramatique.
Et il y a souvent une dépendance morale aussi.
Alors dans ce livre, justement, l'introduction est de Claude Leroy, qui est un entraîneur que les Africains connaissent bien et qui a fait les belles heures de nombreuses sélections africaines. Vous faites parler beaucoup d'interlocuteurs qu'on a déjà entendu dans Radio Foot, parce qu'on est allé notamment une fois à Dakar avec Jean-Claude Voumine pour s'intéresser à ce thème. On entend, on lit Benoît You de la SEC Mimosa à Abidjan, Mathieu Chupin de Sacré-Cœur Dakar, Saher Sek de Diambar à Sali, Jean-Marc Guillou ou encore donc Jean-Claude Voumine. Les statistiques sont assez affolantes, c'est celle de Foot Solidaire. 6000 jeunes qui par an quittent l'Afrique, alors d'une manière...
6000 mineurs.
Mineurs, voilà.
Parce que sinon c'est beaucoup illégal. Plus grand, dès qu'on a plus de 18 ans... De 18 à 23
ans. C'est 6 000
ans,
mineurs.
Mineurs. Et après, bon, c'est des statistiques, c'est des estimations. Si vous
Évidemment.
Voulez, parce que voilà, il y a
c'est
beaucoup
illégal.
De réseaux clandestins, mais oui. Et surtout, ce qu'on voit, en fait, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des joueurs qui se vieillissent. Pour ça, vous voyez, le trafic d'âge et d'identité, on peut en parler peut-être juste
mais
après,
oui,
mais
c'est une
pratique totalement instituée en Afrique. Donc, 90% des footballeurs africains trichent sur leur âge. C'est ce qu'on a découvert,
on
nous.
On pensait
vraiment.
Que souvent, ils se rajeunissaient.
Oui, non, mais vraiment, la majorité se rajeunissent, mais dans le cas des mineurs, si vous voulez, c'est très facile aussi. Quand vous avez 16 ans, bon, bah, hop, vous passez à 18 ans, c'est pas facile. Et d'ailleurs, Claude Leroy en donne un bon exemple dans sa magnifique préface. Il parle de Roger Milla, qu'on a vieilli pour le faire arriver en Europe.
Justement, ces jeunes que vous avez rencontrés en Afrique, ils ne rêvent que de clubs européens, c'est ça, de ressembler à Drogba, à Cristiano Ronaldo. C'est ça leur mec ou finalement ils sont prêts aussi à devenir des vedettes dans leur propre championnat?
Alors, devenir des vedettes dans leur propre championnat, ça n'est absolument pas leur objectif, dans le sens où finalement je crois qu'il y a deux choses qui sont dans leur tête. Il y a effectivement embrasser les mêmes carrières que les plus grands joueurs africains qui jouent en Europe, mais derrière, ils savent très bien que quand bien même ils échoueraient, le simple fait de se retrouver en Europe, de quitter leur pays et finalement d'accéder à cet Eldorado européen, pas forcément footballistique, mais purement économique et social, c'est déjà une réussite pour eux.
C'est déjà une réussite du processus migratoire quand ils arrivent en Europe, pour eux, dans leur tête. Voilà, mais sinon, ils sont totalement happés par les lumières des championnats européens, happés par les salaires qu'on leur promet, qu'agitent des vendeurs de rêves. Et justement, on a fait un très beau reportage au Mali, auprès du stade malien et de Kamel Djabour aussi, à qui on passe le bonjour, et qui, lui, nous racontait que, voilà, le stade malien, quand même, c'est un des plus gros clubs maliens, hein, c'est vraiment le top du top. Il nous racontait qu'il était parti faire un stage au Maghreb, d'une semaine, une mise au vert avant un quart de finale de Coupe de la CAF, je sais pas quoi. Ses trois meilleurs joueurs sont partis du jour au lendemain.
Ils ont
imaginé au sommet du foot malien, quoi. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, en fait, si vous voulez, ils ont tellement peu de moyens par rapport à ce qu'on promet que, de toute façon, dès qu'ils ont une offre, les footballeurs ne pensent qu'à partir, quoi.
Tout est bon.
Tout est bon.
Et derrière, justement, ça a construit un cercle vicieux dans lequel se retrouvent les championnats locaux actuellement. C'est que, vu qu'il y a le départ des, par exemple, on estime plus ou moins à 1000, que les 1000 meilleurs joueurs ivoiriens ne jouent pas en Côte d'Ivoire, ça contribue à niveler par le bas le niveau du championnat local.
Tous les championnats, la plupart. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et par rapport au niveau
des
championnats
dans les années 80-90, moins de spectateurs. Et du coup, ils se retrouvent à payer leurs joueurs au lance-pierre vu qu'il n'y a pas de rentrée d'argent.
Je pense qu'on voit aussi là l'influence de la télévision, des images, la force de l'image, puisque aujourd'hui, les matchs qui sont diffusés en Afrique, que les gens regardent avec intérêt, c'est les matchs de
la Ligue des Champions,
de Liga, de Ligue des Champions, voire de Bundesliga, voire du PSG ou des grands clubs français, un petit peu.
Marseille.
Voilà, mais... Du coup, les championnats locaux passent totalement au second plan, à part, bon, évidemment, les exceptions, il y a l'Égypte, il y a un peu le Maghreb, l'Afrique du Sud, mais ce sont des exceptions.
Ouais, bah oui. Non, mais vraiment, tout le monde s'en fout. Il y a vraiment des exceptions, comme le TP Mazembe, par exemple. République démocratique du Congo, voilà. Ou après, en Afrique, si vous voulez vraiment trouver des championnats un peu fonctionnels, bah, c'est le Maghreb.
Voilà,
où il y a déjà un niveau de salaire.
Le niveau de développement n'est pas le même.
Voilà, non, mais je veux dire, il y a des gens qui vont au stade, il y a des gens qui soutiennent l'équipe, mais voilà, bon, sinon.
Alors, dans votre livre, vous racontez beaucoup d'histoires tristes, hein, finalement, de tous ces joueurs qui partent et qui se retrouvent tout seuls sur un quai de gare, sur un quai de RER où personne ne les attend, et surtout pas un essai au Milan AC, au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Est-ce que vous avez rencontré un jeune, peut-être qui serait pas dans le livre, mais qui, quand même, au bout de ce chemin de croix, a eu une histoire assez jolie, finalement?
Par le passé, on en a rencontré un durant un reportage en Transnistrie, une région séparatiste de Moldavie, un Burkinabé qui a été en fait arrière gauche de l'équipe du FC Sheriff Tiraspol, pour tout vous dire, et qui, en étant arrière gauche, était donc meilleur buteur et meilleur joueur de son championnat sur les deux dernières saisons.
Une vraie star là-bas.
Voilà.
Un club qui a joué
à plusieurs reprises la Coupe d'Europe.
C'est pas Wilfried Balima,
Benjamin Balima.
Benjamin Balima. Oui, voilà.
Exactement.
Belle référence.
Bon, on lui passe le bonjour à lui aussi, voilà. mais c'est vrai qu'aujourd'hui...
Il a joué la CAN, notamment avec les étalons. Hein.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'on a du mal à concevoir, c'est que les joueurs africains sont partout. Partout, dans les 15 pays les plus exportateurs de joueurs de football, il y a 5 pays africains, dont le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. Et ils sont 28 dans le top 100. Donc c'est vraiment énorme, compte tenu de leur qualité, de la qualité des infrastructures sportives et tout, etc.
Donc plus de la moitié des pays africains, en fait, sont dans le top 100 des plus exportateurs.
Et ils vont sur pratiquement les 5 continents, en plus, parce que vous en avez retrouvé en Asie, au Vietnam.
Un joueur sur 5 en Europe est d'origine africaine,
et un joueur sur 4 en Asie. Et ça en dit long justement sur aussi à quel point en fait les joueurs sont prêts à partir à tout prix, et ça peut l'être dans des championnats de seconde voire de troisième zone. Justement, ils cherchent pas de temps à partir en Europe. Enfin, c'est le top du top qui part en Europe, mais derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est cette immense armée de réserve qui se retrouve à échouer en D2 thaïlandaise ou que sais-je encore. Hein.
Moi, je me pose une question. Le problème que vous dénoncez, il est pas neuf. On parlait tout à l'heure du reportage de France 2. Il a été diffusé, je crois, il y a à peu près une dizaine d'années. Comment vous expliquez que ces jeunes-là soient pas, enfin, qu'il n'y ait pas de prévention, qu'ils soient pas avertis, qu'ils vont tomber probablement sur des vendeurs de rêves et qu'ils vont
parce que le rêve européen est leur seule richesse. C'est-à-dire que voilà, ça sert à rien en fait. On a rencontré beaucoup de gens d'une fondation qui s'appelle Samilia en Côte d'Ivoire, voilà, qui faisait de la prévention sur le terrain. Ils allaient dans deux académies. Par jour, parce qu'il y en a 400 rien qu'à Abidjan, des académies de football. Donc, je sais pas si vous avez une idée. Donc, ils faisaient le tour de la ville et ils nous disaient, si déjà on arrive à en faire bouger un sur 25, à lui faire juste rentrer dans la tête que faut faire attention à qui il a, aux vendeurs de rêves, etc. Pour nous, c'est une réussite. Mais sinon, les joueurs n'écoutent pas, ne pensent pas, parce qu'ils pensent tous être l'exception. C'est-à-dire, on leur dit, oui, c'est pareil, je demandais à CRSEC, pourquoi vous dites pas aux anciens joueurs africains, aux grands joueurs africains, de faire de la prévention et tout? Bah oui, mais ils me disaient, Didier Drogba peut pas revenir en Côte d'Ivoire avec ses valises pleines de millions d'euros et dire, ah bah non, surtout n'allez pas en Europe, vous allez pas réussir, faites attention, il y a plein d'arnaqueurs. Vous comprenez?
Il a quand même décidé d'investir dans un club, justement, en Côte d'Ivoire.
Hein, Williamsville.
Exactement, très récemment, il nous le racontait d'ailleurs dans Radio Foot, pour essayer d'améliorer le niveau, notamment du championnat ivoirien, mais pour revenir un peu à la source aussi. C'est ce qu'ils essayent de faire, c'est peut-être ça la solution?
Totalement, mais ça c'est un travail sur le très long terme et un travail de fourmi, et toutes ces initiatives sont vraiment louables, mais en fait, si vous voulez, pour résumer un peu la problématique, je crois que c'était justement CRSEC qui nous disait une phrase très juste, quand on lui a demandé naïvement, mais pourquoi est-ce que justement les jeunes continuent à se faire berner, il a dit, bah écoutez, de toute façon, de base, les jeunes ont envie de partir, d'arriver en Europe. Ils ont le choix entre quoi? Entre traverser le Sahel par des moyens illégaux, ensuite prendre une barque hyper dangereuse et potentiellement se retrouver dans un centre de rétention, ou suivre un agent, faire confiance à un agent pour 5000 euros et avoir le package visa, avion et peut-être un essai. Et c'est quand même un moyen beaucoup plus sécurisant en fait d'arriver en Europe. Mais c'est vraiment ça le péché original, quoi, le problème de base.
C'est guidé par l'espoir quelque part de toute façon.
Voilà, c'est exactement.
Parce que malgré tout, il y a toujours des exemples de gens qui ont réussi. Et tant que tu vois ça du mec qui a réussi, tu dis pourquoi pas moi.
Tu dis tu crois en ton étoile, même si c'est une chance sur un milliard, tu la tentes.
Bien sûr. Voilà.
Christophe.
Pour répondre à votre question sur la solution qu'il faudrait à long terme, c'est effectivement le développement des championnats locaux. C'est-à-dire qu'il faudrait.
Oui, parce que le développement des académies, comme vous le dites, il y en a plein.
Ah oui,
plein,
non, justement, ça dessert le développement du football local.
Oui, mais par exemple au Sénégal, c'est vrai que le développement des navetanes, donc des matchs de proximité, qui sont des tournois, a complètement
court-circuité
le championnat de Ligue 1 local
national,
qui est il y a toujours les clubs, mais le championnat est complètement démonétisé maintenant.
Absolument.
Et c'est pas le seul exemple.
Mais voilà, en fait, le but pour l'Afrique, je pense, est d'arriver à un niveau comparable à celui de l'Amérique latine, où par exemple, on le voit bien, Neymar, quand il est formé au Brésil, il reste un ou deux ans à Santos avant de partir en Europe. Et bon, et en fait, les clubs brésiliens arrivent à retenir leur plus gros talent pendant un ou deux ans parce qu'ils sont payés 5 000 euros, 10 000 euros. Enfin, la famille n'a pas faim. Donc ça permet, voilà, ils sont pas dans une urgence du départ.
Économique.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais pour ça, pour qu'on puisse payer ces joueurs, il faudrait que les clubs européens se mettent enfin à payer les indemnités de formation aux clubs africains. Et ce qu'on explique dans le livre, dans un chapitre qui est consacré à l'impunité des clubs européens, c'est que ces derniers rivalisent de magouilles, d'audace, de créativité, vraiment impressionnant, pour ne jamais payer. Voilà. Mmh. Et on parle quand même de clubs qui payent 40 millions de transferts et qui refusent de payer 100 000 euros d'indemnité à des
par
petits
exemple,
clubs africains.
Par exemple
Anderlecht.
Anderlecht, avec
Anderlecht qui est un club emblématique de ce trafic, voilà, pour ne pas le nommer.
Mais en Belgique, on a vu l'affaire Chancel Mbemba qui a
4 dates d'anniversaire. 3,
4 dates d'anniversaire.
Parce que lui-même, dans une interview, a donné une autre date de naissance.
Il y a une académie un peu bizarre dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est l'Aspire Football Dream.
Aspire,
bien sûr, qui aspire beaucoup apparemment. Voilà. Vous parlez de d'essorage industriel plutôt que
c'est
de détection.
Incroyable.
Ça se trouve à Sali, alors en plus, c'est ce qu'il y a de très bizarre. Nous, on est allé à Diamba, on avait fait du reportage et tout, mais ils sont sur les mêmes terrains que Diamba.
Ils sont loués par Diamba.
Qui se veut...
C'est un client de Diamba, ce qui est en gros comme un hôtelier. Si vous voyez, ça c'est vraiment gênant.
Bizarre.
Parce que Diamba c'est un club emblématique. En fait,
très
on a
sérieux.
Les deux faces,
exemplaire.
On a les deux faces de la même pièce, exactement au même endroit, quoi.
Ouais,
bon, voilà. Après, sans les transformer en esclavagistes, Aspire, parce que non, ils offrent quand même à la vingtaine de gamins qui sélectionnent chaque année, qui forment chaque année. Bon, effectivement, ils sont heureux. Si vous voulez, c'est vraiment, ils sont même payés cher.
Alors, il faut dire qu'il y a le Qatar derrière. Hein,
voilà, il y a le Qatar.
C'est une fondation créée en 2007, dans 2004 à la base, par l'État qatari, et qui a créé cette antenne purement africaine en 2007. Et qui a, depuis 2007, je crois, testé 4 millions de jeunes joueurs africains sur l'ensemble du continent.
On était une journée au Sénégal. En une journée, ils ont testé 44 000 footballeurs. Je sais pas si vous imaginez. Avec 63 terrains.
Mais ils font vraiment ça?
Oui, et pour chercher la perle noire, parce que le footballeur africain est le nouvel or noir du marché. C'est une marchandise et j'utilise le mot à bon escient, c'est une marchandise bon marché, facile à extraire. C'est comme un kilo de coton ou de cacao qu'on va soumettre, qu'on va extraire illégalement du continent. Parce que voilà, on trafique leur âge, on trafique leur identité. C'est pour les faire disparaître des fichiers de la fédération. On va extraire ça et après on va les faire voyager de club en club. Les agents prennent les transactions, etc. Le long d'une grande chaîne de création de valeur ajoutée qui aboutit à des transferts à 40 millions où les intermédiaires s'engraissent.
Et le foot, il est où là-dedans?
On le cherche encore, justement.
Mais si, il est partout parce que justement c'est la passion et les faux semblants.
Oui, mais si on prend un joueur pour le faire changer de club en club, on se souvient de l'affaire par exemple Mangala qui est passé de club en club qui appartenait à des tiers et finalement il est là à Manchester City où on le veut plus.
Oui, mais c'est si vous voulez le cas le plus emblématique et peut-être fondateur de cette volonté de trimballer les joueurs de club en club, c'est Neil Anty, donc une des premières stars ghanéennes un peu, qui justement lui est parti, je crois, 16 ans à Anderlecht et qui en gros s'est retrouvé sous la coupe d'un agent italien qui déjà dans le contrat
s'est arrangé. Antonio Caliendo.
C'est vrai. Et qui s'est arrangé pour avoir toucher 25% de commission à chacun de ses transferts et qui l'a baladé dans une quinzaine de clubs en dépit de tout bon sens sportif et humain. Parce que du coup, ce gars.
Il l'a laissé en dépression totale en Argentine après avoir brisé sa carrière.
Voilà. Et là, à ce moment-là, quand il s'est rendu compte que le mec valait plus rien, il s'est cassé.
Alors écoutez bien, chers auditeurs, ne rêvez pas trop d'Europe, ne rêvez pas trop de clubs à l'étranger si le chemin est trop compliqué. Merci beaucoup messieurs de nous avoir parlé de ce livre Magic System. Merci à tous d'avoir participé à ce Radio Foot International. Guillaume Ploquin était à la réalisation, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Demain, Café des Sports.